Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonsoir à tous, nous sommes lundi 12 février 2024, il est 17h30 et vous êtes sur Prune 92 FM. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Je m'appelle Martin et avec mon équipe, nous avons le plaisir de nous retrouver tous les lundis, pour une heure, sur d'échanges sur les actualités nantaises et ailleurs. Dans le sommaire de ce soir, nous commencerons comme toujours par le Zoom Actualité et nous écouterons la musique Bonne Fête de Juste Chani. Nous avons le plaisir ensuite d'écouter le quatrième épisode de Perrine sur l'espoir fait vivre, une nouvelle chronique. Ensuite, nous ferons une petite pause cadeau avec Esteban qui offrira à l'un ou l'une d'entre vous des cadeaux. Nous ferons ensuite découvrir une musique en rapport avec cette pause cadeau. Et si vous cherchez une idée de sortie artistique le jour de la Saint-Valentin, rendez-vous ce mercredi à Progetta. Maud reviendra avec nous sur le portrait de vie de l'artiste performeuse nantaise Aurore Daudifré, qui présentera son projet Atteindre l'aube ce mercredi à Progetta. L'artiste a choisi de vous faire découvrir la musique suivante, Clover de Camo. Puis nous terminerons par la chronique de la chronique de Victor, toujours rigolote. Mais sans plus tarder, nous commençons comme d'habitude sur le Zoom Actualité et nous questionnons sur la prise en charge des mutilations sexuelles féministes. Et pour aborder ce sujet sensible, c'est Julie, qui interviewe nos trois invités du jour. Donc nous recevons Myriam Bijard. C'est bien ça, bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère départementale en charge de l'égalité femmes et hommes, lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Nous recevons également Anne Martinet. Bonsoir.
Bonsoir.
Responsable de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes et également Solène Vigoureux.
Bonsoir.
Bonsoir Solène. Référente gynécologie obstétrice à l'unité de gynécologie obstétrice médico-psychosociale au CHU de Nantes. J'ai réussi. Bon, c'est tout de suite en tout cas dans le programme de Curiosité et c'est maintenant.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Alors mardi 6 février dernier a eu lieu la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines. À cette occasion, le département organisait une journée pour sensibiliser les professionnels dans l'accompagnement et la prise en charge de ces violences spécifiques. Depuis 5 ans, un effort particulier est fait en Loire-Atlantique pour prévenir et venir en aide aux femmes victimes d'excisions et de mutilations sexuelles. Mais de quoi parle-t-on au juste? En quoi ces violences s'inscrivent-elles dans un continuum de violences sexistes? Et sont-elles révélatrices d'un système d'oppression et de contrôle des corps? Quelle est la réalité du phénomène en France et sur notre territoire? Et surtout, comment aider les femmes à se reconstruire? Pour en parler, Martin disait, nous sommes en compagnie de Myriam Bijard, conseillère départementale en charge de l'égalité femmes-hommes, Anne Martinet, responsable de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes, et la docteure Solène Vigoureux, référente gynécologique obstétrique au CHU de Nantes. Bonjour à toutes les trois. Alors, selon l'UNICEF, on estime à 200 millions le nombre de femmes dans le monde ayant subi des mutilations sexuelles, dont 60 000 en France. Les mutilations sexuelles sont donc loin d'être un phénomène marginal. Chaque année, plus de 3 millions de jeunes filles sont menacées par ces pratiques. Mais d'abord, et pour bien savoir de quoi on parle, à quoi renvoie-t-on quand on parle de mutilations sexuelles? Qui se lance? Solène Vigoureux.
Alors, on parle d'atteinte aux organes génitaux principalement que les jeunes filles subissent dans des pays où on pratique ces mutilations, mais c'est des mutilations qui sont connues depuis très longtemps, hein, qu'on voyait déjà sur des momies et qu'on a pratiqué en France au 18e siècle pour traiter l'hystérie. Et maintenant qu'on voit suite au mouvement migratoire, et c'est pourquoi on reçoit ces femmes-là qui ont des mutilations, et ça correspond effectivement à des mutilations qui sont définies par des types, selon l'OMS, très médicales ou très chirurgicaux.
Oui, l'OMS distingue 4 types. Est-ce qu'on peut essayer de les présenter, ces 4 types, même si ce sont des termes très cliniques, effectivement?
Oui, c'est des termes assez cliniques. Alors, ça, c'est toujours une atteinte très forte aux femmes et aux filles. qui vont de l'ablation du gland clitoridien, du capuchon clitoridien qui correspond au prépuce qu'on voit chez l'homme aussi, à l'ablation des petites lèvres, des grandes lèvres, à des mutilations qui peuvent être fermeture complète de l'orifice vaginal, à d'autres types de mutilations comme agrandir les grandes lèvres, les petites lèvres, faire des incisions au scalpel sur le clitoris, des choses qui peuvent être très visibles, très gênantes, à des choses qui sont moins visibles, moins gênantes. Et le ressenti des femmes est aussi très différent en fonction, avec des répercussions qui peuvent être très importantes. Elles ne peuvent plus faire pipi normalement, ou peu de répercussions et peu de ressentis, en tout cas liés à ça.
Et quand on parle des mutilations sexuelles, on parle aussi des interventions médicales qui sont faites sur le corps des personnes intersexes, c'est-à-dire des personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles considérées comme ne correspondant pas aux définitions sociales, médicales typiques du féminin et du masculin. La loi a un peu changé sur ce type d'intervention. Que dit la loi justement aujourd'hui en France ? Ces interventions sont-elles encore tolérées ?
Alors, sur les mutilations sexuelles féminines, il y a des lois très précises, on est plutôt avancé. Après, il n'y a pas de loi sur les mutilations, c'est des lois sur tout type de violence qui entraîne une mutilation. Donc, c'est pénalisable depuis un certain temps et c'est maintenant pour les mineurs jusqu'à 20 ans. Enfin, le délai de prescription est passé aussi, donc elles peuvent porter plainte jusqu'à 48 ans, du coup, maintenant, après la majorité, 30 ans après la majorité.
Donc pour les mutilations sexuelles.
Pour les mutilations sexuelles. Après, sur...
Les interventions médicales pour les personnes intersexes, qu'en est-il, en fait, en France ?
Alors, moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne pourrais pas vous répondre avec précision là-dessus. C'est, je ne peux pas vous répondre. Moi, je prends vraiment en charge les femmes qui ont eu des excisions pour des raisons de rituels traditionnels. En général, parce que c'est des migrantes qui viennent d'Afrique et qu'on reçoit au CHU de Nantes. Après, pour le choix des intersexes, je peux...
Ça ne fait pas partie des patientes ou des patients
non,
que
vous pouvez... Non, ce n'est pas des patientes que je vois.
Avoir. Alors, avant les années 70 et les luttes féministes du XXe siècle, les mutilations sexuelles ont longtemps été appréhendées par un prisme culturaliste, anthropologique. On considérait que c'était dans les mœurs, dans les cultures, au point que ça minimisait finalement la réalité de ces violences-là. On pouvait faire le parallèle, par exemple, avec la circoncision masculine. Pourquoi c'est important de considérer, de changer de regard, de les considérer bien comme des mutilations et de parler de violences ? Et de ne pas faire de parallèle, justement, qui serait ici, qui minimise finalement la réalité de ces violences ? Anne Martinet.
Non. Alors, sur la reconnaissance, déjà, on parle de mutilation sexuelle féminine. Ça, c'est les mouvements féministes qui ont amené ça, parce qu'on parlait de mutilation génitale. D'ailleurs, dans le vocabulaire médical, on parle beaucoup de mutilation génitale, mais les mots à sens et donc sexuel, c'est parce que c'est quand même un contrôle de la sexualité des femmes et des filles. Et c'est lié donc à la procréation, etc., puisque... Pardon.
Il n'y a pas été devant le micro, merci.
Avant tout, ça a toujours été sur tous les continents le contrôle du corps des femmes. Donc, je ne me rappelle plus le début de la question. C'est-à-dire,
c'est-à-dire que avant les années 70, avant les luttes féministes, avant de parler justement de mutilation sexuelle, on appréhendait ces mutilations comme quelque chose de purement culturel, ce qui venait à les minimiser.
Donc, oui.
Pourquoi c'est important d'avoir fait ce virage-là et de les inscrire justement dans ce continuum de violence, ces inégalités dans le rapport des genres.
C'est rentré dans le cadre des violences sexuelles aujourd'hui, et c'est grâce à des mouvements comme des associations comme le GAMS, qui est l'association nationale qui lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, qui sont le mariage forcé et les mutilations sexuelles féminines, et de faire évoluer pour... parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes sur notre territoire qui, par tradition ou par... pour essayer de rester fidèles à la culture d'origine, ne voient pas que dans leur propre pays d'origine, les choses évoluent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérêt de travailler avec les associations sur les territoires qui le pratiquent, où ça se pratique encore, de travailler avec eux, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont passées, notamment par exemple le Burkina Faso. Il y a des associations de femmes et d'hommes, d'ailleurs, qui luttent sur tous les continents. Et parfois, il est intéressant de venir dire que, dans leur pays d'origine, les choses évoluent aussi. Il n'y a pas que notre regard occidental.
Quel est le parcours des femmes qui ont subi ces violences? Alors là, je me tourne plutôt vers vous, Solène Vigoureux.
Alors, c'est des parcours qui sont assez différents en fonction des femmes. Nous, celles qu'on reçoit à l'hôpital, c'est souvent des patientes qui ont des parcours très traumatiques, qui ont quitté leur pays pour des raisons de violence, des mariages forcés la plupart du temps, qui laissent douloureusement leurs enfants au pays et qui essayent de s'échapper d'un vécu traumatique quotidien, qui subissent un parcours migratoire aussi très compliqué, parfois avec des viols, parfois avec des violences extrêmes, et qui finissent par arriver en France. Alors, nous, sur les patients qu'on prend en charge, il y en a 20% par exemple qui sont aussi dans des réseaux de prostitution, donc qui passent par l'Italie et qui arrivent en France et à Nantes ensuite. Tout ça dans de la violence, et puis quand elles arrivent à Nantes, c'est pas forcément plus réjouissant pour elles, parce que elles sont dehors, elles sont pas forcément hébergées, ou alors elles subissent aussi de l'esclavagisme moderne avec des personnes qui les abritent, mais en échange d'esclavagisme assez rude. Et donc l'excision, c'est une des violences qu'elles ont subies, mais c'est pas forcément la seule violence. Nous, on essaye de les accueillir par cette voie-là, mais bien sûr que la prise en charge, elle est beaucoup plus large, et c'est pour ça que la chirurgie, moi je suis chirurgienne, c'est pas du tout la réponse à tout ce parcours traumatique vécu, et c'est une prise en charge plutôt globale avec un accueil bienveillant, avec des psychologues, avec des sexologues, avec un parcours qui se veut aussi long et adapté au traumatisme et au désir et aux besoins des femmes.
Alors justement, avant de préciser un petit peu l'accompagnement spécifique qui est mis ici en place sur le territoire, je voudrais qu'on écoute un extrait de témoignage. Il s'agit du témoignage de Kuala Kone, qui date de 2013. Kuala Kone a été victime de mutilations sexuelles féminines et s'est engagée en Côte d'Ivoire pour dénoncer ces violences. Au moment de son témoignage, près de 40% des femmes ivoiriennes ont subi des mutilations sexuelles.
Ce que je retiens encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser, qu'on m'a fait debout. Celles qu'on avait fait avant moi, elles étaient assises sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Cette peur-là, j'ai encore cette peur-là, moi. Et puis ça fait même que j'ai eu peur de l'homme même, du garçon. Finalement, je ne savais pas si tout ce qu'on faisait là-bas faisait mal. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore dans la tête.
Alors on vient d'entendre, je le disais, le témoignage de Kuala Kone, activiste ivoirienne, extrait d'une vidéo de sensibilisation réalisée par l'UNICEF en 2013. Alors dans son témoignage, ici, plus que la douleur, elle raconte cette peur qui est inscrite, installée, avec laquelle elle doit vivre. Que vous inspire ici son témoignage? En quoi est-ce qu'il résonne peut-être ou pas avec peut-être les autres expériences, rencontres que vous avez faites avec les femmes que vous soignez au CHU de Nantes, Solène Vigoureux?
Effectivement, ça résume bien, même si on peut pas le résumer. Chaque parcours n'est pas similaire, mais c'est à peu près le discours qu'on entend. Nous, on accueille à peu près une quinzaine de femmes par mois dans cette unité, après, elles se livrent plus ou moins avec ce genre de discours, mais c'est effectivement cette peur, la peur de l'autre, la peur de l'homme, effectivement, elle est souvent mise en avant. C'est comme je vous le disais, c'est pas une chirurgie qui va résoudre les choses, c'est plutôt une reconstruction globale et qui, justement, la plupart du temps, c'est moins de 30% des femmes qu'on va opérer dans notre parcours, en tout cas, parce que y a plein d'autres choses à reconstruire avant.
Alors, je le disais en introduction, ça fait plusieurs années que le département s'engage pour prévenir et accompagner les femmes victimes de mutilations sexuelles. Je me tourne vers vous, Myriam Bijard. Quelle forme prend cet engagement à l'échelle du département et avec quels moyens, surtout?
En fait, donc, sur le département, on a l'Observatoire des violences faites aux femmes hein, qui existe et dont Anne Martinet a la responsabilité. Ça a toujours été une volonté du département d'accompagner les acteurs sur le territoire sur des questions concernant les violences faites aux femmes. Donc c'est depuis un certain temps, bon, depuis 2016, on a l'Observatoire, mais depuis cette période-là, on a fait une première sensibilisation avec des professionnels pour justement leur présenter un petit peu ce qui était la réalité en faisant intervenir des professionnels comme Madame Bourreau, parce que c'est l'essentiel, c'est que les personnes, le contact peut être par l'hôpital, mais souvent il y a d'autres réseaux qui font que les femmes se dirigent vers un autre type de professionnel. Donc là, dernièrement, nous avons eu l'occasion, jeudi dernier, d'accueillir hein, des professionnels, autant des services sociaux, des professeurs, des personnels de l'éducation nationale également, qui sont venus s'informer, parce qu'en fait, on se rend compte que le manque de formation initiale fait que lorsque la personne se présente, on peut entendre, mais on n'est pas exactement au fait de ce qu'est la mutilation sexuelle, ce que la personne a pu ressentir. Donc c'est déjà important d'avoir ces connaissances-là et par ailleurs de connaître tous les réseaux. Ça va autant sur les réseaux pour ce qui est du soin, mais aussi pour ce qui est de l'accompagnement, par exemple au niveau juridique. On a une juriste qui a été présente et qui a permis de présenter justement la loi et comment c'est une loi qui est répréhensible par la loi d'accompagner une jeune vers l'excision. C'est interdit et il y a tout un travail qui est fait justement pour que, avant de partir dans leur pays d'origine pour un voyage, eh bien, qu'il y ait bien une information de fait à la famille sur les risques qu'ils prenaient si l'enfant ou la jeune fille revenait avec cette mutilation. Donc il y a tout un travail quand même d'information qui a été fait au cours de cette formation, de cette matinée. C'était la deuxième qu'on organisait là depuis quelques années et je crois que ça paraît essentiel. Et par ailleurs, on a aussi en ce qui concerne les professionnels, hein, on a la protection maternelle infantile dans les espaces départementaux de solidarité, des assistantes sociales également, qui sont, grâce à la formation qu'elles ont acquise, capables d'accompagner vers des services spécifiques en fonction des besoins que la personne émet pour qu'elle puisse être accompagnée dans une dynamique de soins. Ça peut être des soins, je dirais, plus physiques, enfin, de reconstruction. Ça peut être un accompagnement vers des psychologues et autres. Donc ça nous paraît essentiel au niveau du département, au regard de notre proximité hein, de ces femmes. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure de prostitution. Ça veut dire qu'il y a aussi cette volonté aussi d'accompagner des femmes qui veulent sortir et qui sont en souffrance.
Et quel est l'état des lieux en Loire-Atlantique, justement ?
Alors, au niveau de l'état des lieux, j'ai pas de chiffres précis. Hein. On en a au niveau, on était à 6
en fait, au niveau national, vous aviez dit 60 000, on dit plutôt 125 000.
Voilà, c'est ça.
Excisées. Et en France, ouais.
Encore 125 000, c'est des chiffres de 2010, c'est des estimations. Donc je pense que avec le mouvement migratoire,
un rapport qui datait.
Il y a des rapports qui ont été réactualisés. En 2010, on a une estimation autour de 120 000. Et moi, je dirais que ça a probablement augmenté. Enfin, pour plein de raisons, mais
comment expliquer justement cette augmentation?
On parle des chiffres en France, donc les flux migratoires qui augmentent, potentiellement les excisions qui augmentent aussi, avec plus de famines, plus de mariages forcés, plus de stress au pays. Enfin, je pense que après, ouais, c'est que des estimations, mais c'est.
En fait, il est difficile de dresser un état des lieux, de comptabiliser la réalité de ces violences-là.
En fait, le planning familial, en fait, on a, dans le cadre d'un appel à projet qu'on a au département sur les violences faites aux femmes, avait tenté de faire un état des lieux. D'ailleurs, elle l'a fait parce qu'il a récupéré les données un petit peu de tout le monde, mais en fait, c'est pas des chiffres stabilisés puisque les femmes pouvaient être dans plusieurs endroits. C'est assez difficile d'avoir des données réelles sur les violences faites aux femmes en général et sur les mutilations sexuelles encore plus.
Alors là, on est sur des femmes qui ont des parcours de vie fragilisés, on l'a bien entendu, parcours fragilisés qui peuvent aussi donc, les éloigner finalement de l'offre de soins. Est-ce que ce n'est pas une difficulté à laquelle vous rencontrez ici dans votre pratique? Comment en fait les amener vers le soin, ces femmes-là?
Myriam parlait tout à l'heure des services de PMI. Donc, qui suivent les femmes enceintes, les sages-femmes suivent les femmes enceintes et les enfants jusqu'à 6 ans. Donc, c'est un moment assez clé pour les personnels de PMI pour pouvoir parler si elles ont, au moment, dans l'accompagnement de la grossesse, elles voient que la mère est excisée. Ça lui permet d'avoir tout un travail de prévention sur ce qui peut se passer derrière pour sa petite fille quand elle a, et et se mettre en lien avec le CHU, parce qu'en plus le CHU a, Solène en parlera plus tard, mais il y a des réunions d'information en fait pour toutes les femmes qui veulent venir. Donc on a la chance d'avoir cette unité qui est dédiée. Et donc les professionnels de santé peuvent orienter, mais en tout cas ils peuvent aussi faire de la prévention sur les petites filles à naître.
Alors justement, ça va être ma dernière question, puisque l'heure tourne. Comment est-ce qu'on parvient à prévenir ces violences-là, in fine ?
Déjà, d'en parler, c'est très bien. Et puis d'en parler à toutes les jeunes filles, et puis de manière assez simple, hein, de parler des violences et de parler justement des mutilations, que ça peut arriver. Il y a peut-être des gens qui sont plus à risque, et ça, on se rend compte effectivement avec des études qu'il y a plus de risques dans certains pays, chez certaines petites filles qui ont des sœurs ou mères excisées. Donc la prévention, elle se fait par l'information, tout d'abord. Et puis nous, on a effectivement la porte d'entrée chez nous, c'est pas mal la maternité, parce que l'unité elle est au sein du service de gynéco-obstétrique et donc là où les femmes accouchent. Donc on propose à toutes les femmes de venir tous les derniers vendredis du mois de 14h à 15h à une réunion d'info qui est complètement libre pour parler des mutilations, mais pas forcément les inscrire dans un soin après, mais en tout cas informer et puis donner les informations qui sont nécessaires pour la prise en charge.
Et plus largement, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'améliorer l'éducation à la sexualité au niveau du département, Myriam Bijard ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau des collèges, il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait, hein, lutte contre les tabous. Et on s'est bien rendu compte, c'est en dernier, là, qu'au niveau de l'éducation nationale, les heures qui normalement devraient être au programme ne sont pas du tout réalisées. Et il n'y a pas vraiment d'accompagnement concernant l'éducation à la sexualité. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu un témoignage intéressant d'une infirmière scolaire qui expliquait qu'une jeune fille ayant eu quelques informations en cours de biologie s'est interrogée sur sa propre anatomie et ça a été l'occasion, et ça c'est important, c'est d'imaginer que qu'on puisse être amené à signaler parce qu'elle a des jeunes sœurs. Donc c'est aussi aller un peu plus loin vers les familles aussi pour pouvoir accompagner et faire comprendre que ça ne se perpétue pas, que c'est une tradition. On n'est pas dans une question culturelle, on a échangé à ce sujet-là, on a fait la différence entre ces questions culturelles ou tradition, et c'est vraiment sur une tradition et qui ne permet pas à la femme de s'épanouir et qui est une souffrance, surtout, vous avez parlé tout à l'heure, autour de la naissance, parce que c'est pas sans provoquer de nombreux soucis à ce moment-là, d'autant plus. Donc je crois qu'il faut absolument que nous, au niveau de nos collèges, on continue à travailler, donner des moyens. Il y a des associations aussi qui peuvent intervenir sur ces questions-là. D'ailleurs, on subventionne quelques associations qui interviennent au sein des collèges pour aborder ces questions-là. Mais je pense que le travail des enseignants, ça fait partie de leur l'enseignement. Donc on doit leur faire confiance, mais il faut qu'ils aussi aillent vers des services qui vont les accompagner dans le renseignement si ça pose souci.
Donc renforcer ici l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Merci Myriam Bijard, Anne Martina et Solène Vigoureux. On le rappelle, le CHU propose des permanences le dernier vendredi de chaque mois sur les mutilations sexuelles féminines de 14h à 15h. L'entrée est libre et sans réservation. Et si vous êtes victime de violence, il existe aussi un numéro d'écoute national, le 3919. Merci à vous.
Merci.
Merci Julie de nous avoir préparé cet extrait. Merci également du coup à nos trois invités pour avoir éclairci ces différents sujets. Tout de suite, nous vous proposons d'écouter un extrait musical, Just Shani, Bonne Fête, qui s'intitule Bonne Fête, qui est justement une musique thématique sur les violences sexistes et sexuelles. C'est tout de suite dans Curiosité.
Ça ne disait rien, elle disait simplement d'être belle, d'être bien à sa vie.
Moi, dans mon couple, ma femme doit être belle et se taire.
Une femme sur cinq qui est victime de harcèlement au travail.
Dans ces femmes qui parlent, 40% perdent leur travail.
Le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de 23% en un an.
C'était pas bonne fête, ou alors c'était nous aussi aux femmes qu'on mordu le sol ou qu'on morflait. Celles sous morphine qui verront pas morfler. Celles qui ont croisé le carreau, c'est pas la bonne fée. Elle a porté jupe, on l'a boxée, on l'a embauchée juste pour ses bonnes fesses. Dans le bus, on l'a frottée. Non, mais c'était pas bonne fête.
me souhaitez pas bonne fête. J'ai vu le nombre de mitos, j'ai lu de sombres éditos, croisé des bandes de demi-to. Toi, 16 ans, privé de Wico, elle a 6 ans, privé de clito. Synopsis, l'heure est de nuit, si joli, si joli. Le monde est miso, la musique aussi, silo, silogisme. Me souhaitez pas bonne fête. 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 Prends l'argent mais rends d'abord les 20%. Ils me traitent de pute parce que je l'ai repoussé. Les mentalités, faut qu'on se batte pour ça. Une main par-ci, un cri perçant. Les publicités ne choquent plus personne. Tant que pour convaincre on utilise une verre de sang. Le bonheur des femmes et le liquide vaisselle sont synonymes. J'ai cramé depuis mes premiers ratus. Le masculin l'emporte sur mes ratures. Dieu a dit que tu nous tenteras tous. Tu auras l'interdiction de nous montrer tes rotules. Tu sais chez nous elles sont matées à l'acide. L'enchage est massif quand la danse est lascive. 8 ans et marié, tu connais la suite. Vito, vito, loin. Me souhaitez pas bonne fête. 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 Si joli, si joli. Me souhaitez pas bonne fête. Si l'eau, si l'eau, juste. Me souhaitez pas bonne fête. Vino, vino, vi. Me souhaitez pas bonne fête. Gino, Gino, vis.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
Auditoris, vous êtes toujours sur Curiosité dans Prune. Vous venez d'écouter l'interview des mutilations sexuelles féminines par Julie. Et tout de suite, on laisse le micro à Perrine avec un nouvel épisode, le 4e épisode de L'Espoir fait vivre. C'est tout de suite.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
Pour cette 4e chronique sur l'espoir fait vivre, où je vous emmène chaque semaine dans mon verre à moitié plein, je continue sur ma lancée avec des concepts en sion. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'inspiration. Un grand homme nous a quittés la semaine dernière. Il a fait voter l'abolition de la peine de mort dans notre pays et il s'est également battu toute sa longue vie pour les droits humains et les libertés publiques. C'est la figure qui a inspiré mon thème du jour. Je rends donc ici hommage à Robert Badinter et à son discours historique du 17 septembre 1981 à l'Assemblée nationale.
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement.
Ça avait une autre gueule, à l'époque, l'Assemblée nationale. La mort de ce grand homme m'a donc fait réfléchir aux personnages contemporains qui m'inspiraient. Icône, figure symbolique ou modèle. Malheureusement, j'ai l'impression d'en avoir trouvé davantage dans le passé que dans le présent. Un petit flashback de rigueur s'impose. Abraham Lincoln proclame l'abolition de l'esclavage en 1865 aux États-Unis, ce qui lui a valu à 56 ans d'être le premier président américain assassiné. Dolores Ibáñez, alors députée des Asturies, prononce le fameux « no pasarán », symbole de la résistance antifasciste contre Franco en 1936. Rosa Parks, femme afro-américaine, refuse en 1955 de céder sa place à un passager blanc dans le bus. Elle sera surnommée « mère du mouvement des droits civiques » par le Congrès américain. Patrice Lumumba et Thomas Sankara, tous deux inscrits dans la lutte contre l'impérialisme, mais tous deux assassinés avant qu'ils ne parviennent à concrétiser leur grand projet panafricain. L'un dans les années 60 en République démocratique du Congo, l'autre dans les années 80 au Burkina Faso. Simone Veil, ministre de la Santé sous Giscard, rend légal en 1974 le droit à l'IVG en France. Haroun Tazieff, célèbre volcanologue français, avertit dès 1979 sur Antenne 2 que le réchauffement climatique est dû à la pollution industrielle. Contre l'avis du non moins célèbre commandant Cousteau. Winnie Mandela lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud pendant les 26 ans d'emprisonnement de son mari Nelson. La fin de l'apartheid verra enfin le jour en 1991. Mais en 2024, quelles sont nos figures emblématiques toujours en vie? Des lanceuses d'alerte comme la pneumologue Irène Frachon, des réalisateurs de cinéma social comme Ken Loach, des militants pacifistes, féministes et anticoloniaux comme Angela Davis, le secrétaire général des Nations Unies qui alerte régulièrement sur la folie des hommes, comme Antonio Guterres, des rappeurs dont les textes sont des cris de révolte contre le racisme, la manipulation des médias ou l'injustice, comme Kerry James, des femmes qui luttent pour une société féminine écologique, démocratique et libre, comme les femmes combattantes du Rojava. Ah, l'inspiration, que ferait-on sans elle ? Elle nous stimule, nous donne de la vitalité et de la volonté pour donner du sens, argumenter, combattre et nous sentir vivants. C'est le souffle qui nous donne de l'impulsion. Mais comment devient-on inspirant ? Des amis m'ont récemment fait découvrir le concept très intéressant d'assertivité, qui est la capacité à exprimer son point de vue dans la bienveillance d'autrui. Ni paillasson, ni hérisson, m'ont-ils résumé. C'est-à-dire s'affirmer sans passivité ni agressivité. Moi qui suis plutôt du genre hérisson, je vais tâcher d'en prendre de la graine. J'essaie déjà d'appliquer les quatre accords Toltec que voici. 1. Que votre parole soit impeccable. 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. 3. Ne faites pas de suppositions. 4. Faites toujours de votre mieux. Et pour les balèzes qui arrivent déjà à respecter ces quatre-là au quotidien, voilà le cinquième. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Alors, s'il vous arrive de manquer d'énergie ou d'espoir, cherchez des figures que vous admirez ou appliquez des mantras. Ils sont d'une grande puissance et vous aideront à appréhender la vie plus sereinement. Soyez attentifs et attentives, ces figures sont peut-être là, tout près de vous. Et ces êtres bienveillants, calmes à l'écoute, de bons conseils, pacificateurs et souriants, incarnent non seulement la sagesse, mais ont aussi une longue espérance de vie. La plupart des personnages que j'ai cités, lorsqu'ils n'ont pas été assassinés, sont morts à 90 ans passés. Faites de votre vie un art et laissez vos muses vous porter le baume au cœur dont vous avez besoin. Peut-être alors deviendrez-vous vous-même une source d'inspiration pour d'autres.
Merci Perrine pour cette nouvelle chronique sur l'inspiration, l'ingrédient secret que tous les bénévoles ici, du coup, pour faire leur chronique ont besoin. Nous clôturons du coup notre première partie d'émission avec, comme à chaque fois, la pause cadeau pour l'une ou l'un d'entre vous qui sera chanceux, chanceuse et qui, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est dans la pause cadeau avec Esteban tout de suite.
La pause cadeau.
Ce soir, Prune t'a fait gagner deux places pour la soirée Repeat Up qui aura lieu le jeudi 15 février au Stéréolux. Une soirée 100% rock UK proposée par l'association nantaise Repeat Up avec deux groupes représentant le meilleur de la nouvelle scène d'Outre-Manche. D'un côté, le post-punk festif et hybride d'Hôtel Luxe et de l'autre, celui plus abrasif et arty de Triboy and Arc. Donc pour avoir la chance de gagner deux places pour cette soirée qui s'annonce d'enfer, envoie un emoji rock sur l'Instagram de Prune. C'est tout pour la pause cadeau d'aujourd'hui. On se laisse avec la suite de l'émission, mais avant, on écoute le morceau National Team de justement Hôtel Luxe. Bonne écoute sur Prune.
The national team, there's people my age to play for the national team. The national team, the national team, there's people my age to play for the national team.
Medication and gold, he beats his chest.
competition, then we can't be the winners. This manual that I own is written for beginners. If life's a competition, then we can't be the winners. This manual that I own is written for beginners. The national team, the national team. There's people my age to play for the national team. The national team, the national team. There's people my age to play for the national team. And everything I wanted, it's only a dream. Yet there's people my age to play for the national team. And everything I wanted, it's only a dream. Yet there's people my age to play for the national team.
Curiosité, l'actu locale décryptée.
Chers auditeurs, auditrices, vous êtes toujours dans Prune, dans Curiosité exactement, et nous continuons notre deuxième partie d'émission. Alors si vous cherchez du coup une sortie pour la Saint-Valentin, sachez que vous pouvez vous rendre directement à Progetta. Progetta, du coup, situé rue de Coulmiers, atelier et collectif réunissant 12 artistes, tout autour d'une passion commune sur l'impression, l'édition et la fabrication. Et nous avons le plaisir d'avoir de recevoir une artiste performeuse nantaise, Aurore Daudifray. Et c'est dans tout de suite avec dans notre portrait de vie.
Je ne sais pas comment faire.
Curiosité. Portrait de vie.
Merci Martin et auditeurs, auditrices, bonsoir. Donc pour notre portrait de vie, on reçoit effectivement ce lundi 12 février Aurore Daudifray, donc une artiste travaillant principalement l'improvisation physique et dansée sous de multiples formes et dont l'une de ses particularités est de danser sans musique. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc après avoir obtenu un diplôme en psychologie et un certificat en danse contemporaine du Conservatoire régional, tu as poursuivi ta formation en danse à Copenhague et à Stockholm. Fin 2021, tu crées ta propre compagnie Volume Bleu et tu donnes ainsi des ateliers d'expression corporelle et d'improvisation à des publics très variés, en EHPAD, en école ou encore auprès d'adultes, tout niveau et professionnel. Au-delà de la danse, tu es également investie dans différentes associations et tu es l'initiatrice et co-programmatrice de plusieurs festivals d'art et soirées, donc Muster Club à Stockholm, Yaka à Nantes ou encore Magma Fusion à Rezé. Ce mercredi 14 février, tu performeras à Progetta, donc un atelier collectif nantais qui organise une soirée Saint-Valentin de 17 à 23 heures, gratuite et ouverte à tous. Le programme suivant sera proposé aux visiteurs, une exposition, la vente de posters, un atelier sérigraphie, un B2B signé Riposte et Torpedo, ainsi que ta performance Atteindre l'aube que tu réaliseras aux côtés de Kalan au piano. Donc avant de parler plus en détail de cette soirée, de ta performance à venir, je souhaiterais d'abord aborder avec toi dans un premier temps ton parcours et ta pratique de la danse. Tu t'inscris dans le champ de la danse expérimentale et des pratiques somatiques. D'après le Larousse, pour expliquer un petit peu, d'après le Larousse de la danse, le terme somatique correspond à l'apprentissage de la conscience du corps en mouvement dans l'espace. Inventé à partir du mot grec « soma » exprimant le corps dans sa globalité, le terme de « somatique » fut proposé dans les années 70 par le philosophe Thomas Anna, comme ça on fait un petit peu de philosophie, qui disait « je pense donc, je bouge » dans son livre « La somatique ».
J'adore.
Alors Aurore, première question, selon toi, qu'apportent les techniques somatiques à la danse dans la conscience du mouvement ou d'un point de vue très personnel?
Oui. Ok. Qu'est-ce que ça apporte à la danse? Moi, je trouve que ça apporte quelque chose de très intéressant qui est d'aller au-delà de l'esthétique, d'une forme préconçue ou préparée d'un mouvement. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est vraiment le ressenti de la personne et l'expérience au global du danseur ou de la danseuse. Et du coup, de ma danse à moi. Quand je danse, et aussi quand je la regarde ou quand je l'expérimente. J'estime qu'une danse, quand on va voir un spectacle, quand on va voir une performance, quand on va voir toutes sortes de choses qui sont liées au corps. J'estime qu'on expérimente une danse, même si nous, on est juste, entre guillemets, spectateurs. On est pour moi aussi acteurs de cette performance-là. Et donc, du coup, moi, en tout cas, ça m'intéresse, et en tant que danseuse artiste, et en tant que spectatrice, d'expérimenter justement cette honnêteté de l'expérience qui est liée aux pratiques somatiques et qui n'est pas forcément juste. C'est pas du tout pour diminuer, bien au contraire, les différentes esthétiques de danse, parce que les pratiques somatiques peuvent s'incorporer dans d'autres esthétiques. Mais je trouve que ça ajoute un petit layer pour faire du franglais. C'est désagréable, mais j'ai dit layer.
Tu as osé.
J'ai osé.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment s'est passée ta rencontre avec la danse et quand est-ce que tu as commencé et est-ce que tu avais un style particulier de danse que tu exerçais ?
Oui, j'ai commencé, je pense, à 3-4 ans dans l'association Cadence de Bretignolles-sur-Mer en Vendée. Et donc, du coup, c'était du modern jazz. Donc voilà, c'était super. Et j'ai beaucoup aimé ça. Donc, je danse depuis que je suis vraiment toute petite. Et après, j'ai fait une option de danse au lycée, en plus de mon bac ES à l'époque. J'ai ensuite été en fac de psycho. Je pensais que je n'allais pas avoir le temps de danser plus que ça. Et je suis du coup allée au conservatoire là-bas. Et puis, c'est à la fin de ma licence de psycho que je me suis dit que j'aimerais quand même bien danser dans ma vie et puis pas regretter à 40 ans non plus de pas l'avoir fait. Donc je me suis rassurée dans ma tête en me disant que mon cursus universitaire ne pouvait ne pas s'arrêter là, mais juste de prendre un an pour essayer la danse. C'est là où je suis allée à Copenhague pour faire une prépa. Je me suis dit, pas de souci, je reprends mon master de psycho juste après, t'inquiète. Haha.
C'est pas ce qui s'est passé.
Pas du tout. J'adore danser. Donc voilà, c'est le parcours un peu logique de commencer la danse toute petite, etc. Moi, je pensais être psychologue, mais pour l'instant, je suis danseuse.
Eh bien, écoute, très bien. Et tu as d'ailleurs une de tes particularités qui est de danser sans musique.
Alors oui, ça m'arrive. C'est pas la chose qui me définit. En revanche, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça ajoute autre chose, ouais.
Et justement, alors je regardais une vidéo que tu as tournée avec le média Vlip fin 2023. Donc, on te voit danser au bord d'un cours d'eau dans un parc à Nantes, finalement sans accompagnement musical, alors qu'on associe généralement la musique qui accompagne une danse. Tu expliques danser en fonction de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ainsi que de l'environnement dans lequel tu es. Est-ce que au moment où tu vas danser sans musique, est-ce que tu as des pensées qui te traversent l'esprit ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ton corps finalement ?
Du coup, je m'impose entre guillemets des tâches, donc une sorte de partition, comme on dirait une partition musicale. Ce serait une partition pour, vu que moi je fais beaucoup d'improvisation, je me donne une partition avant de me lancer dans une danse. Donc du coup, là, les partitions peuvent être très variées. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses à faire en même temps pour que mon attention soit très prise et que mon esprit divague pas trop. Ça peut être juste des partitions et des tâches liées à l'espace, liées au bruit que j'entends, si c'est des oiseaux, des arbres, du vent, là, pour le coup, vu que c'était dans un parc. Ça peut être aussi des partitions, bien sûr, corporelles, des choses qui sont, par exemple, soit impossibles à faire, mais que j'essaye de faire tant bien que mal. Ça peut être des tâches quotidiennes, mais que je déroule différemment et ça devient quelque chose de dansé. Et puis du coup, ce qui se passe dans mon corps, c'est que c'est très intéressant comme question, vu que je suis quand même assez entraînée dans le sens du corps, quoi, depuis 25 ans. C'est difficile de nommer exactement tout ce qui s'y passe. Il faudrait que je m'y penche un peu plus pour pouvoir mieux décrire. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui me traversent, que ce soit la lumière, le son, l'espace, les gens qui passent, ou quoi que ce soit. J'essaye du coup de faire un blougi-blougla de mes émotions, des sensations corporelles, mes pensées, etc. Et ça, normalement, ça devient des mouvements dansés.
Et si jamais on a envie d'essayer de danser sans musique, comment essayer? Est-ce que tu as un conseil peut-être à nous partager, ou même comment on pourrait choisir un endroit qui nous inspire peut-être personnellement?
Ouais, alors on peut déjà danser dans sa chambre, ça marche pas mal. On peut aussi s'auto-créer une musique si ça nous aide au départ. Se faire une petite mélodie dans la tête, un petit rythme aussi. On peut essayer de faire des rythmes avec notre corps, avec nos pieds. Voilà. Et puis de cadrer un petit peu un espace. Alors soit c'est quelque chose de domestique, si c'est chez nous, soit c'est urbain, soit c'est la nature. Essayer de toucher les choses et de voir comment ça, au niveau de notre corps, ça peut créer d'autres formes, ça peut peut-être créer un mouvement. Ce seraient mes conseils. Mais en effet, c'est pas forcément évident quand on n'a pas essayé. En revanche, c'est assez libérateur quand on essaye pour de vrai.
Donc c'est une bonne thérapie finalement d'essayer.
Une bonne thérapie, je sais pas, mais en tout cas ça fait du bien et ça peut être rigolo.
Ok, très bien. Est-ce que d'ailleurs ça t'est déjà arrivé peut-être de te retrouver dans un environnement qui ne t'a pas inspiré, ou peut-être dans lequel tu t'es pas forcément toi senti connectée pour différentes raisons?
Certainement, et pour autant j'arrive à me m'auto-inspirer. Parce que en fait, j'ai pas trop le choix. Vu que c'est mon métier, je peux très bien arriver quelque part et que bon, soit je suis pas très inspirée, soit je suis fatiguée, soit j'ai pas très envie, soit tout ce que vous voulez. Et pour autant, je vais le faire.
Il en découlera quelque chose.
Ouais. Donc du coup, je m'auto-inspire, on va dire.
Très bien. J'ai une dernière question peut-être avant qu'on passe à la pause musicale. Est-ce qu'il y a peut-être un lieu sur Terre où tu n'es peut-être jamais allée, où tu rêverais toi de danser?
Ou plusieurs lieux? Ouais, j'y ai jamais réfléchi. Et du coup, c'est super d'y réfléchir rapidement.
peut-être un lieu qui t'inspire plus particulièrement autour de la nature ou
Peut-être là, la première image qui m'est venue, c'est genre une énorme plateforme en plein milieu de la mer. Du coup, je sais pas, j'irai en hélico peut-être.
Ok.
Et du coup, je pourrais danser en plein milieu de la mer, ce serait génial. Faut pas des trop grosses vagues ce jour-là, mais...
On fait un appel du coup si quelqu'un peut t'aider à faire ce projet. Je vous propose du coup maintenant de passer donc à la pause musicale avec la musique Clover que tu as choisie, donc de Kamao. Pourrais-tu nous expliquer en quelques mots pourquoi tu as choisi cette musique en particulier?
J'adore cet artiste. C'est un artiste africain-américain, si je ne m'abuse, donc et qui a une pratique aussi de l'improvisation et du loop. Alors, pas dans cette chanson-là, mais je vous invite à aller sur Instagram et à le découvrir. Ça s'écrit K-A-M-A-U-U. Et il a une dimension très spirituelle aussi dans son travail qui me touche beaucoup.
Très bien, et ben je vous propose du coup qu'on l'écoute.
Oh, my love won't make nothing if we ain't in the morning. I love ya in the morning, hey, don't the Lord. There's something in the air when I get the best of you, and you get the best of love, 'cause love is best with no ending. And I don't give a damn what friends say. It's everything that my friends say. Just another point of view that doesn't seem to point to you. And I love and I trust what we have. And I love how the trust. Make nothing if we ain't in the morning. It's easy just to say, oh, I know it was hard to bear this weight. Another one bites the dust, another chastising eyes, another one bites the tongue, another love fades away, another life.
Auditeurs, auditrices, nous sommes de retour sur Prune 92 FM et vous venez d'écouter un extrait de Clover de Kamao. Et nous sommes en présence donc d'Aurore Dodifray, une artiste travaillant principalement l'improvisation physique et dansée sous de multiples formes. Aurore, donc, tu performeras aux côtés de Kalan ce mercredi 14 février à Progetta dans le cadre de leur soirée Saint-Valentin. Alors Aurore, bien évidemment, le 14 février est associé à l'amour dans la conscience collective. Comment danse-t-on l'amour selon toi? Et pourquoi avoir choisi de performer ce soir-là précisément et sur cette thématique?
Progetta, c'est un atelier d'artistes qui s'avère être des amis. Ils font des soirées à thème de temps en temps et ça faisait quelque temps qu'ils voulaient me proposer de participer. Et il s'avère aussi que Kalan, le musicien, est mon compagnon. Donc on fait un duo qui n'a rien à voir avec quelque chose de trop à l'eau de rose, mais du coup il y a un petit lien, disons, avec la Saint-Valentin dans ce sens-là. Comment danse-t-on l'amour? Il y a de multiples façons. Je vais pas pouvoir répondre, je crois, à comment on danse l'amour. En revanche, mercredi, ce qui m'intéresserait plus, ce serait je vais peut-être passer pour une hippie, mais plutôt un amour universel et un amour de groupe plutôt que quelque
partager.
Chose. Plutôt que quelque chose qui soit de l'ordre du romantique à deux.
Et est-ce que toi, qui as principalement un rapport à l'espace, est-ce que quand tu danses typiquement dans un contexte de Saint-Valentin, est-ce que ton fil conducteur va être uniquement la notion d'amour, ou est-ce que tu es vraiment dans un espace et peu importe le sujet, peu importe le public qui est en face de toi?
Là, ce sera vraiment pas lié à ça. Ça aurait pu, mais j'ai décidé que non. Et pour le coup, c'est important pour moi aussi de, encore une fois, appuyer le fait que la Saint-Valentin n'est pas forcément une fête peut-être juste pour l'amour romantique et couple. Je sais pas quel adjectif utiliser pour couple. Voilà.
mais on comprend l'idée. On parlait de d'espace. Comment tu appréhendes l'espace avant une performance? Est-ce que tu as besoin d'aller voir le lieu, ou est-ce que tu arrives dans le lieu et finalement il va t'inspirer dans ta danse?
C'est beaucoup mieux pour moi de pouvoir aller voir le lieu en amont. On a déjà fait le duo qu'on va faire du coup deux fois avant. On l'a fait à un festival à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à un festival à Rezé, Magma Fusion. Là, c'était Magma Party pour le coup. Et à Rezé, c'était dans un bowl de skatepark. Donc, c'est très grand. Et moi, il fallait que je prenne tout cet espace-là seul. Donc, ça, c'est un vrai challenge. Et c'est quand même mieux de s'entraîner dedans si c'est possible, même si parfois il n'y a pas trop le temps. Et là, Progetta, c'est vraiment petit. Il va y avoir sûrement plusieurs personnes qui seront là-dedans. Donc il faut aller voir le lieu si c'est possible. Et si c'est pas possible, on se débrouille toujours. Et encore une fois, on est inspiré par le lieu de toute façon. Et par les gens qui y sont. Pas seulement les gens qui sont là font partie de l'espace.
Très bien. Je vais avoir une dernière question pour toi, Aurore. Tu prépares actuellement donc ton prochain spectacle Foyer. Qui est aujourd'hui au stade de recherche. En un mot, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'objectif de ce nouveau projet?
L'objectif, c'est un spectacle, une performance, un trio avec Amma Chier et Frédérica Burval, qui sont des danseuses de house à la base, mais juste des personnes qui bougent de manière magnifique. Et c'est vraiment en phase de recherche pour l'instant, mais c'est une espèce d'ode à la communauté et au bien-être par rapport à la danse, une espèce de petit rituel pour que les gens se sentent au mieux possible. Parce que dans ma danse, C'est l'une des choses qui m'intéresse le plus. C'est le fait d'être bien ensemble, si possible. Mais si jamais ça intéresse des gens, vous pouvez me suivre sur Instagram, Volume Bleu.
Super, ben voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup en tout cas Aurore pour ton temps ce soir, pour notre échange. Donc pour rappel, tu performeras à Progetta donc ce mercredi 14 février dans le cadre de leur soirée Saint-Valentin de 17 à 23h. On mettra de toute façon toutes les informations à la fin de l'émission avec ta pièce, donc Attendre l'aube avec ton compagnon, donc Callan. Merci beaucoup Aurore.
Merci.
Merci Maude pour cette belle chronique, du coup très inspirante, inspiration, n'est-ce pas Perrine, sachez que si jamais vous... J'ai appris aussi une chose, que tout ce qui est médiatisé peut être repris par Victor, sachez. Donc il faut faire très attention toujours à tout. C'est dans la chronique de Victor, ça nous fait toujours rire et c'est maintenant dans Curiosité.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Bonsoir, vous l'avez peut-être remarqué, mais l'offre de leasing d'une voiture électrique à 100 € par mois, sponsorisée par le gouvernement français, va prendre fin, victime de son succès, d'après le ministre de l'Industrie. Ce qui nous amène donc à la question suivante. Depuis quand ça existe la logique? Pour répondre à cette question, Jamy, nous allons voir notre spécialiste consultant toutologue Jean-Michel Pavlovitch. Alors Jean-Michel, depuis quand la logique existerait-elle?
Eh bien, cela remonterait à l'Antiquité.
Eh bien, écoutez, c'est parti. Direction l'Antiquité grecque, je fonce vers ma machine à remonter le temps et 3, 2, 1, en avant.
C'est quoi ce son?
Et bonsoir à tous mes petits chouchous, je viens d'arriver dans la Grèce antique et j'ai l'impression d'entendre des gens. Je vais me rapprocher. Et bonsoir à tous mes petits choufous, je suis Cyrilus Anonius, nous sommes dans Touche pas à mon temple athénien, on est ensemble. Oh ouais mes petits chéris, bienvenue dans Qui c'est qu'on va-t-elle, le seul jeu du paf où vous allez voter mes petits sucres pour ostraciser quelqu'un de façon totalement arbitraire et injuste, mes petites gaufres pour l'exploit d'Athènes à jamais. Ouais! Nos deux candidats du jour, un honnête marchand qui n'a rien demandé à personne, à un criminel coupable de 12 meurtres, alors faites votre choix mes petits loulous. Envoyez un ou deux sur votre poterie et jetez-la sur le type attaché au milieu, il est payé pour. Alors, il semblerait que nous ayons le résultat. Je suis soulagé, car mon test de QI est ressorti négatif. Excusez-moi, mes petits cocos, je m'égare. Le suspense est à son comble, mes petits amis. Eh, tiens mon doigt. Mais qui a invité Gérardus de Perdus? L'ostracisé est donc l'honnête marchand. Félicitations à lui, on l'applaudit bien fort. Vous êtes les meilleurs, mes petites lucioles. Encore une fois, excellent boulot, mes amis. Je vais donc tenter de décrocher une interview avec ce type qui semble somme toute fort sympathique, qu'est Cyrilus Anonius.
Salut, c'est Enzo, le célèbre intervieweur de Curiosité lundi. Tu veux gagner un iPhone X? Ah ouais, non, du coup. Mais est-ce qu'on peut avoir une interview, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez inventé la logique?
Alors, félicitations pour votre présentation. Je pense que c'était la meilleure que j'ai jamais entendue de mon existence, après celle de Joe Biden, du président du Mexique. Vraiment, votre entrée en matière était fabuleuse. Je pense que...
Mes chaussures lui, ça ira, merci.
Oui, alors effectivement, j'ai décidé d'inventer la logique pour pouvoir faire l'exact contraire. C'est-à-dire que si les gens veulent quelque chose de façon moins chère, je vais immédiatement leur mettre des bâtons dans les roues.
Pertinent. Merci beaucoup, Cyrilus Anonius, d'être passé nous voir.
Paulus, vous êtes en état d'arrestation, les voyages dans le temps sont interdits.
Vous aimez pas la logique, vous non plus, c'est une sirène des pompiers, ça. Ok, c'est le moment de s'éclipser. Quand des gens comme lui veulent m'attraper, faut pas y aller mollo. C'est donc pour ça que je mets mes Nike Air Pro. Que je mets mes Nike Air Pro. Elles sont trop bien et en promo. Effectivement, je suis sponsor. Nous voici au studio de France 3, Esplanade Henri de France. Voici dimanche en politique. Avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure.
Est-ce que l'État va aider au financement de 50 000 voitures, voire plus s'il le faut?
On le fera, mais on le fera en s'assurant qu'on cadence bien.
Eh oui, ce serait quand même dommage de verdir si vite. Je vous rappelle que si la voiture électrique est l'avenir de l'automobile, l'automobile n'est pas l'avenir de la mobilité.
C'était tout de suite la Crovic. Alors si vous demandez ce qui passe dans sa tête, on n'a pas la réponse, on ne pourra pas vous dire. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi notre émission. Il est bientôt 18h30, oui, il ne reste plus qu'une minute. C'est la fin de Curiosité sur Prune. Le temps passe très vite, on a passé un très bon moment du coup en votre compagnie. Je tiens du coup à présenter vraiment toute mon équipe. Également, si vous n'avez jamais entendu sa voix, mais l'animation est bien réalisée par Cléo. Donc petite dédicace à Cléo. Ah, il veut parler. C'est l'occasion. Non, du coup, vous n'entendrez pas sa voix du coup maintenant. Merci également on va faire du coup un petit coucou aussi à Enzo, qui n'est pas sur l'émission, mais on lui fait un petit coucou en même temps. Sachez que vous pouvez rester à l'antenne. À 19h, c'est la suite. On se retrouve dans tous les cas lundi prochain, même heure, même jour, évidemment. Et on vous dit à bientôt. Ciao, bisous. Salut.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.